Et le journal est présenté ce soir par Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pas de répit pour Alep. Les bombardements russes ont repris aujourd'hui sur la ville syrienne qui avait connu un répit relatif ce week-end. La question d'un cessez-le-feu dans la ville a par ailleurs sérieusement refroidi les relations entre la France et la Russie. Vladimir Poutine reporte une visite prévue à Paris la semaine prochaine. Nous ferons le point sur ce dossier avec Éric Biegala et Bruno Cadenne. En Haïti, la situation sanitaire est catastrophique dans le sud de l'île où l'on craint une épidémie de choléra. L'OMS envoie des milliers de vaccins. Le reportage dans ce journal. En France, plusieurs policiers sont sortis de leur commissariat aujourd'hui après l'agression de deux de leurs collègues à Viry-Châtillon dans l'Essonne samedi dernier, en soutien et à l'appel de leur syndicat. Manuel Valls leur a promis quelques moyens supplémentaires. Et puis, comment se porte la médecine du travail? Pas très bien, c'est le dossier de cette édition à l'occasion des 70 ans de la loi qui a rendu obligatoire les médecins dans les entreprises. L'enfer n'a pas cessé à Alep, en Syrie, où les bombardements russes ont repris encore plus violemment, semble-t-il, depuis ce matin. Après un calme relatif durant ces deux derniers jours, et malgré la promesse du régime syrien de diminuer l'intensité de ses attaques, les raids aériens se sont faits encore plus violents. C'est ce dont témoigne, en tout cas, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Anne-Laure.
Alors, depuis le début de l'offensive du régime, pour reprendre la ville, les combats se déroulent pratiquement rue par rue.
Oui, effectivement, il y a eu une sorte de pause la semaine dernière dans les bombardements aériens. Le régime de Bachar al-Assad avait d'ailleurs averti qu'il ne s'agirait là que d'un répit, histoire de laisser le temps aux civils d'évacuer Alep Est, sans d'ailleurs vouloir expliquer comment ces civils auraient pu quitter les quartiers assiégés de la ville. Les combats se déroulent généralement en deux temps. Premièrement, des sortes de préparations d'artillerie, bombardements aériens, des avions du régime, comme de l'aviation russe, mais également bombardements aux lance-roquettes multiples qui saturent un quartier, ne visant pas spécifiquement les positions armées des rebelles et n'épargnant donc personne. Ensuite, les troupes du régime avance. On note au passage que ces troupes sont aujourd'hui à Alep très largement constituées de non-syriens, des milices chiites irakiennes, le Hezbollah libanais, voire des combattants chiites venus d'encore plus loin, du Pakistan ou d'Afghanistan, entraînés, armés et en tout cas payés par l'Iran. Ce sont eux qui avancent et prennent, le cas échéant, certains des quartiers d'Alep jusque-là tenus par la rébellion. Depuis le 21 septembre, le régime a essentiellement avancé dans les faubourgs nord de l'agglomération, reprenant aux rebelles une surface de terrain assez importante, une dizaine de kilomètres carrés, de zones semi-industrielles, ainsi que l'ancien camp palestinien d'Andarat. Ces avancées dans les quartiers proches de la vieille ville ont en revanche été beaucoup plus limitées, à peine quelques immeubles. Et ce sont sur ces quartiers centraux, résidentiels, que les bombardements ont repris depuis ce matin. Des quartiers comme Bustan al-Qasr au sud-ouest de l'antique citadelle d'Alep, ou Fardous, encore un peu plus au sud. Le bilan est déjà lourd chez les civils. Au moins 12 morts, dont 4 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un immeuble entier se serait écroulé suite à une frappe probable de bombes anti-bunker que seuls les avions russes possèdent. Caleb Khatib, l'un des casques blancs, ces secouristes improvisés d'Alep, parlait lui sur Twitter il y a quelques minutes d'au moins 30 morts.
Merci Éric Biegala. Des combats qui se déroulent sur fond de totale impasse diplomatique et de ce qu'on pourrait qualifier de brouille entre Paris et Moscou. On rappelle rapidement que pour tenter de mettre fin à ce pilonnage massif d'Alep, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, avait proposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, résolution rejetée par la Russie, Russie dont le président devait se rendre en France la semaine prochaine pour inaugurer une église et un centre culturel. Une visite pas du tout opportune, a jugé l'Élysée, qui veut bien rencontrer le président russe, mais seulement si c'est pour parler de la Syrie. Écoutez à ce propos François Hollande, qui était interrogé ce matin sur la question par un parlementaire européen du Conseil de l'Europe à Strasbourg.
Monsieur Poutine, président de la Russie, devait venir à Paris prochainement pour un certain nombre d'inaugurations et de cérémonies. Je concevais cette visite uniquement si elle permettait de parler de la Syrie, et uniquement de la Syrie. Et j'ai fait savoir au président Poutine que s'il devait venir à Paris, je ne l'accompagnerais pas pour les cérémonies, mais j'étais prêt à poursuivre le dialogue sur la Syrie. Il a préféré reporter cette visite, ce qui n'empêchera pas d'autres occasions de discussion, mais il ne viendra pas à Paris. Dès lors qu'il sera possible, et je le souhaite, que la Russie puisse être véritablement décidée à faire cesser les bombardements auxquels elle participe, en soutenant le régime syrien, je suis prêt à tout instant à prendre le chemin du dialogue.
Des propos recueillis par Anya Vogel. Bonsoir Bruno Cadenne.
Bonsoir Anya.
Alors la France donc a décidé de tenir tête à la Russie sur les affaires syriennes, position qui lui a d'ailleurs valu cet après-midi à l'Assemblée de violentes critiques de députés de droite notamment. De l'autre côté, Vladimir Poutine s'en tient lui aussi à sa position et a annulé ou plutôt reporté sa visite en France. Alors quelle est la stratégie de la Russie qui semble avoir choisi son camp ?
Le pari de la France, en tout cas, est de démontrer que la Russie est isolée et qu'elle n'a d'autre choix que de revenir à des positions plus modérées pour reprendre le chemin de la table des négociations sur la Syrie et l'Ukraine. Sauf que Vladimir Poutine ne veut pas apparaître comme ayant cédé à un Occident que les médias officiels russes dénigrent quotidiennement. Et plus l'ambiance est à la guerre froide, plus le Kremlin se rapproche de l'Iran ou de la Turquie en espérant que cette inflexibilité finisse par diviser les Occidentaux. Pour se sortir de l'isolement en pleine crise ukrainienne, Vladimir Poutine avait déjà tenté de trouver de nouveaux alliés, une opération baptisée le pivot vers l'Est, c'est-à-dire vers l'Asie. Deux ans plus tard, le bilan est plus que mitigé. La Chine veut bien soutenir la Russie dans certains votes à l'ONU ou faire des manœuvres militaires communes, mais la Chine n'oublie pas qu'elle commerce avec le monde entier et plus particulièrement avec les États-Unis. Quant au Japon du nationaliste Shinzo Abe, il y a toujours entre les deux pays la querelle historique sur les îles Kouriles annexées par l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours avec les mêmes motivations que le Kremlin soutient en Europe tous les mouvements politiques populistes et anti-européens, en espérant qu'une fois au pouvoir, ils supprimeront les sanctions contre la Russie. Car le vrai but de Vladimir Poutine dans ce grand jeu est d'obtenir une reconnaissance de son annexion de la Crimée et que la Russie soit à nouveau considérée comme une grande puissance, traitant d'égal à égal avec les États-Unis. Celui des Européens est au contraire de démontrer que le tsar est nu et isolé et que seul un retour à la modération sur l'Ukraine et la Syrie permettra au Kremlin d'être à nouveau accepté par la communauté internationale.
Bruno Cadenne, merci beaucoup. On vient de l'apprendre. À Kaboul, en Afghanistan, il y a quelques minutes, une fusillade a visé des pèlerins chiites venus célébrer l'Ashura. Deux des assaillants ont été tués. On n'en sait pas plus pour l'instant. Au Yémen, où le conflit entre le pouvoir et les rebelles houthis a fait plus de 10 000 morts, la capitale Sanaa redoute une épidémie de choléra. Des milliers de familles déplacées par les combats sont entassées dans des conditions insalubres selon l'OMS. Des premiers cas de la maladie ont été enregistrés en fin de semaine dernière. On en comptait 11 aujourd'hui. Par ailleurs, la moitié des centres de soins du pays ont cessé de fonctionner depuis l'offensive de l'Arabie Saoudite et de ses alliés. Le choléra, c'est aussi ce que craint la population d'Haïti après le passage de l'ouragan Matthew. En cause notamment la difficulté, voire l'impossibilité d'accéder à l'eau potable. L'OMS, là encore, annonce l'envoi d'un million de doses de vaccins contre le choléra. Le bilan du passage de l'ouragan dépasserait les 1000 morts. Grégoire Lecalot est l'envoyé spécial de France Culture à Jérémy, une petite ville du sud de l'île, détruite à 80%.
Des routes effondrées, minées par une crue de 4 mètres, des monceaux de détritus bloquant quasiment les rues, des maisons tellement endommagées qu'on se croirait dans une ville bombardée, souvent sans toit. Jérémy est une sorte de vision d'enfer, la poussière et la boue ensemble. Les habitants n'en peuvent plus et au moins deux manifestations se sont produites dans l'espoir de bloquer des camions d'aide. L'aide humanitaire commence à arriver massivement une semaine après l'ouragan, mais elle reste difficile à distribuer. En attendant, la situation est tendue, l'eau courante a été coupée hier soir et l'inquiétude monte à propos de l'eau en bouteille. Cet accès difficile à de l'eau propre fait ressurgir le spectre des épidémies. C'est le choléra qui inquiète beaucoup. 37 cas de diarrhée aiguë ont été jusqu'ici recensés à Jérémy, dont certaines pourraient être des cas de choléra. La maladie n'a jamais été éradiquée dans le département de Grand-Anse et elle pourrait ressurgir de plus belle. Ainsi, la commune d'Anse-des-Nos a-t-elle déclaré 106 cas suspects.
Des dispositifs anti-caillassage pour les voitures de police en zone sensible. C'est la première réponse de Manuel Valls à la mobilisation de centaines de policiers dans plusieurs villes de France ce midi. Une mobilisation qui fait suite à l'agression au cocktail Molotov de deux policiers samedi dans l'Essonne à Viry-Châtillon. Un premier pas, mais pas suffisant, estiment plusieurs syndicats qui avaient appelé à cette mobilisation. Devant le commissariat d'Evry dans l'Essonne, la ville de Manuel Valls, ils étaient plusieurs dizaines ce midi à s'être rassemblés. Le récit sur place d'Emmanuel Leclerc.
De l'inquiétude, de l'énervement et aussi une certaine forme d'écœurement à Évry. On a des policiers de tous les services départementaux, PJ, gardiens de la paix, CRS, certains sont même venus de Paris. Un rassemblement assez modeste malgré tout, une centaine d'agents, mais les mots sont faits pour décrire une situation que tout le monde redoutait jusque-là. Cette haine des policiers qui dégénère en guet-apens avec cette fois l'envie de tuer. Pour les policiers présents ici à Évry, comme pour ce brigadier habitué du quartier de la Grande Borne, la question c'est surtout de savoir Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Déjà qu'on nous laisse bosser, qu'on arrête de nous dire faites pas de vagues, les poursuivez pas. Ici si, c'est la ville à Valls ici. Il y a plein de moments où on n'a pas le droit d'aller. On a dit n'y allez pas, faites pas de vagues. Voilà. On y allait, c'était quand la semaine dernière? Il y a 10 jours. On a fait la même chose que les collègues. Notre but c'était de tourner autour. Il fallait pas qu'on rentre dedans. On demandait de surveiller. En fin de soirée, on nous a tiré dessus au mortier, on nous a tiré dessus au pistolet d'alarme, il fallait pas riposter. Voilà.
Les différents syndicats policiers de leur côté cherchent déjà à obtenir plus de renforts que ceux annoncés jusque-là, plus que les 45 postes et pas des jeunes adjoints de sécurité comme on le leur a promis, mais des policiers expérimentés de Paris par exemple, hein, qui vivent dans ce département de l'Essonne moins cher que dans la capitale, mais qui n'obtiennent pas, qui n'arrivent pas à obtenir de mutation.
Emmanuel Leclerc. Et puis ces chiffres rendus publics aujourd'hui via une note de l'Observatoire National de la Délinquance. L'année dernière, 12 400 policiers ont été blessés et la tendance est en forte hausse sur les premiers mois de 2016, ce qui s'explique notamment par le nombre important de policiers blessés à Calais ou lors des manifestations contre la loi travail. Par ailleurs, en 2015, 6 policiers sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, une proportion deux fois moins importante que 2014. 11 policiers avaient alors perdu la vie. Les collectivités locales et leurs finances. Cela fait longtemps que les régions, les départements et les communes attirent l'attention de l'État sur l'état, paraît-il, déplorable de leurs finances. La faute à des dotations qui diminuent et à des bénéficiaires du RSA qui augmentent, notamment. Un discours que l'on pourrait presque juger alarmiste au vu de ce rapport rendu ce matin par la Cour des comptes, où il apparaît que la situation financière des collectivités locales s'est globalement améliorée l'année dernière. Bonsoir Jean-Marc Chardon.
Bonsoir Nord.
Mais il y a un mais, leur situation reste fragile.
Et il y a amélioration, déjà, le président de la Cour des comptes le dit, on avait perdu l'habitude des satisfecit de sa part. Alors quand il dit amélioration, c'est bien de la partie financière dont il s'agit. Les efforts de gestion des collectivités ont commencé à produire des résultats perceptibles. Alors si on traduit, ça signifie que ce n'est pas considérable, mais tout de même, baisse des dépenses de fonctionnement et rythme des dépenses de personnel divisé par 3. Ce recul des dépenses, il est salué, pour autant, on n'en a pas fini avec les économies à l'horizon 2017. 2017, attention, fragile, Didier Migaud avertit. Quand il dit contrainte, il faut traduire par rigueur.
La contrainte peut encore être forte sur 2016, sur 2017, et on voit que les marges de manœuvre possibles sont à travers une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et à l'intérieur des dépenses de fonctionnement, des dépenses de personnel.
En clair, ralentir les augmentations de salaire, modérer les avancements, ne pas remplacer les départs à la retraite. Un mot aux collectivités qui seraient tentées de laisser filer les impôts. Didier Migaud répond d'avance.
Le fait d'augmenter les impôts, c'est un peu une situation de facilité. Il y a des marges de manœuvre qui peuvent être trouvées par une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement et des dépenses de personnel. Et c'est ce que s'efforce de faire un nombre de plus en plus important de collectivités territoriales.
Voilà, de ces collectivités qui adoptent ce que Didier Migaud appelle les bonnes pratiques. Ça consiste à s'interroger sur la signification de chaque dépense, la limitation d'avantages particuliers tels que, par exemple, des congés liés à des fêtes locales, il y en a parfois beaucoup, ou autre usage à la discrétion des présidents de collectivités imputés sur les finances publiques.
Merci Jean-Marc Chardon. Elle a 70 ans aujourd'hui. La médecine du travail, créée par la loi du 11 octobre 1946, avait pour but d'améliorer au sein même des entreprises les conditions de travail, la santé, la sécurité et la prévention. 70 ans plus tard, on ne parle plus de médecine du travail, mais de santé au travail. Quant à la souffrance au travail, on en parle également de plus en plus. Elle reste toujours difficile à évaluer. Et puis, les médecins du travail, eux, se sentent dévalorisés. Leur spécialité n'est plus reconnue, disent-ils. Bref, la médecine du travail est-elle malade? C'est un dossier signé Marc Van Torout.
C'est d'abord un problème de relève. Il n'y a plus que 5 à 6 000 médecins du travail en France, dont près de la moitié a plus de 50 ans et sera bientôt à la retraite. Mais la médecine du travail n'attire pas les jeunes médecins en cause des conditions de travail qui se sont dégradées ces dernières années. Un délitement qui s'est poursuivi avec la loi travail votée cet été selon les médecins. L'un d'eux, Bertrand Lousser, dresse un diagnostic pessimiste sur la situation.
Je serai jeune médecin. Je pense que je ne m'orienterai pas forcément vers la santé au travail, compte tenu effectivement de la mort qu'on annonce de cette spécialité. Et si c'est pour faire de l'expertise simplement, j'irai la faire dans un autre domaine que celui de la santé au travail. La médecine du travail, d'abord, c'est une médecine de prévention. On est censé effectivement voir tous les salariés d'une entreprise, toutes les entreprises, pour se fonder un jugement sur justement cet état de santé. Et aujourd'hui, on est en train de nous demander d'espacer de plus en plus les contacts avec les salariés, avec les entreprises. Et le fait d'espacer ces contacts fait qu'on n'aura plus de relations de confiance, on n'aura plus de sources d'informations, et donc personne ne verra notre utilité.
Autre dégradation, le remplacement des postes de médecins du travail par d'autres spécialistes, des infirmiers, des toxicologues qui, sous le nom de pluridisciplinaires ou d'IPRP, sont chargés d'évaluer les conditions de travail des salariés en mesurant par exemple des indicateurs comme la poussière sur les lieux de travail. Ces professionnels ne bénéficient pas d'autant d'indépendance que les médecins du travail, par exemple, ils ne sont pas soumis au secret médical. Un processus que Pascal Marie-Chalard, sociologue au CNRS, a constaté dans son enquête médecin du travail, médecin du patron, et qui l'associe à une autre tendance, la mercantilisation de la médecine du travail.
Il y a, on va dire, une managérialisation et financiarisation des prestations proposées par les services de médecine du travail, qui essayent de se positionner beaucoup sur le marché des consultants et de proposer des prestations payantes aux entreprises, où en gros on va les aider à être en règle de différents points de vue. Donc, par exemple, l'employeur est obligé de faire un document d'évaluation des risques professionnels, le service de médecine du travail va l'aider à faire ce document. Qui est un document d'évaluation, ce qui n'est pas un document de prévention. C'est pas du tout la mission originelle de la médecine du travail.
Un phénomène qui renforce la méfiance historique des salariés vis-à-vis de la médecine du travail.
Dès le début, il n'était pas très clair si la médecine du travail était là pour protéger les salariés ou pour les sélectionner, les exclure du marché du travail dès qu'ils montraient des faiblesses. La plupart des salariés ne connaissent pas très bien le fonctionnement de la médecine du travail. Les salariés ont l'impression que c'est juste un examen physique rapide et qu'on leur demande est-ce que tout va bien, et ils répondent tout va bien puisqu'ils ont peur de dire autre chose parce qu'ils savent pas très bien si ça va pas se retourner contre eux, et ça en reste là. Après, dans le cas où certains salariés ont des problèmes et réussissent à en discuter avec les médecins du travail, dans le cas aussi où il y a des syndicats dans l'entreprise qui rencontrent régulièrement le médecin du travail, là on peut voir un intérêt assez grand pour la figure du médecin du travail.
Dernier écueil, une série de scandales sanitaires. Le plus connu, c'est celui de l'amiante qui est à l'origine de près de 1700 morts par an en France, selon l'Institut National de Veille Sanitaire.
Un dossier de Marc Van Torout. On connaît depuis ce début d'après-midi les finalistes du prix Sakharov, décerné tous les ans par le Parlement européen en faveur des droits de l'homme. Il s'agit du journaliste d'opposition turc Can Dündar, du leader des Tatars de Crimée Mustafa Cemilev et de deux femmes yézidis rescapées de l'État islamique en Irak, Nadia Mourad Bazeh et Lamia Haji Bachar. Le lauréat ou la lauréate sera désigné le 27 octobre prochain à Strasbourg. Autre prix remis, celui-là, par une dizaine d'organisations, dont Amnesty International et Human Rights Watch, le prix de la fondation Martin Ennals, considéré comme le prix Nobel des droits de l'homme. Il a été attribué cette année à l'intellectuel chinois ouïghour Ilham Toti, économiste et universitaire, issu de cette minorité réprimée par les Chinois. Ilham Toti a été condamné en septembre 2014 à la prison à vie par Pékin. Il n'était donc pas à Genève pour recevoir son prix ce matin, mais en lui attribuant, les associations de défense des droits de l'homme ont tenté de faire réagir le gouvernement chinois. À Pékin, Dominique André.
Ilham Toti est un universitaire réputé, économiste respecté, blogueur. Il a écrit de nombreux ouvrages. Les autorités chinoises en guerre contre les séparatistes musulmans ouïghours du Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, considèrent qu'il est l'un des porte-drapeaux de la rébellion. Le tribunal d'Urumqi, capitale régionale de Xinjiang, l'avait d'ailleurs accusé de séparatisme. Ilham Toti s'est toujours défendu face à de telles accusations. Durant ses cours à l'Université centrale des nationalités à Pékin, l'universitaire avait fait part de ses critiques devant la répression menée par le gouvernement chinois contre l'ethnie minoritaire ouïghour des musulmans turcophones. Il avait critiqué aussi la politique de Pékin qui pousse les Han, majoritaires en Chine, à s'installer au Xinjiang. Cette liberté de parole lui a coûté en septembre 2014 la réclusion à perpétuité. La vraie honte de cette situation, a déclaré le président de la fondation Martin Ennals, est que, en éliminant la voix modérée d'Ilham Toti, le gouvernement chinois jette en fait les bases de l'extrémisme même qu'il dit vouloir empêcher.
Dominique André, pas de taxes sur les transactions financières avant 2018, et encore, c'est si tout va vite et bien, c'est ce qu'ont annoncé les ministres des Finances allemands et espagnols réunis en marge d'une réunion de l'Eurogroupe à Luxembourg. 10 ministres européens sur les 28 se sont tout de même entendus pour rédiger un texte à destination de la Commission européenne afin d'enfin mettre en place cette TTF qui permettrait notamment de lutter contre le réchauffement climatique. Un mot du temps de demain, mercredi, des nuages le matin sur l'ouest et le sud du pays qui vont provoquer des averses sur une moitié sud l'après-midi. Brouillard et nuages aussi du Cotentin aux Ardennes. Ailleurs, belles éclaircies. Les températures seront très fraîches demain matin. Comptez 2 degrés à Paris, 6 à Bordeaux et 8 à Toulouse. Et Lille, l'après-midi, elles iront de 12 à 19 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Proulx.